Chapitre 29. Examen de conscience.
Est-ce que tu vas quelquefois à confesse, Mariquette ?
Oui, comme tout le monde.
Et quand tu vas à confesse, qu'est-ce que tu dis ?
Je mens.
Tu mens ?
Répéta-t-il abasourdi. Mais oui, fit-elle toute désolée. Et c'est ta faute si je mens, puisque je réponds chaque fois « Jamais, mon père !» quand il me demande « Vous ne le ferez plus ?» Riquet avait un air si navré en faisant cet aveu que Riquet crut nécessaire de rassurer immédiatement cette pauvre petite conscience troublée.
« Quand tu as avoué que tu as péché,
demanda-t-il,
on t'impose une pénitence. »«
Naturellement. » »«
Et tu l'as fait, la pénitence ?»«
Bien entendu. » »«
Alors, n'aie aucun scrupule, Mariquette, car parmi tous les péchés, il en est un qui jouit d'immunité tout à fait spéciale, puisqu'on l'appelle péché mignon. Et pour celui-là, vois-tu, la pénitence n'a été inventée que comme un recueillement imposé à la faute pour pécher à nouveau.
Chapitre 30. Riquet a une idée pour faire d'excellents mariages. « Je crois, dit Riquet, que je viens de trouver une très belle pensée sur le mariage. »«
Une pensée neuve ?»
demanda Riquet. « Neuve pour moi, en tout cas, puisque je ne la connaissais pas avant de l'avoir eue. »
« Très juste. Eh bien, mon doux trésor, voyons ta belle pensée sur le mariage. »«
Belle pensée !» annonça Riquet. Elle se recueillit un instant, puis, plus sérieuse, elle énonça. « Si c'est une grande douleur de ne pas pouvoir s'épouser quand on s'aime, c'est un plus grand malheur de s'épouser quand on ne s'aime pas. Et voilà !»«
Oh, mais tu sais quelle est très bien ta pensée !»
dit Riquet sincèrement admiratif.
« Pas gai, triste, mais très, très bien. »«
Alors, monsieur est content de madame ?»«
Tu plaisantes, tu as tort, car tu viens d'émettre là une observation digne de La Rochefoucauld. Mais à propos de quoi t'est-elle venue ?»«
À propos d'un monsieur et d'une dame dont on m'a parlé aujourd'hui, que je ne connais pas, et qui viennent de divorcer parce qu'ils n'avaient jamais pu s'entendre. »«
Je les plains, »
dit Riquet. « Du reste, » poursuivit Riquette, « à la façon dont aujourd'hui se font les mariages, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de divorce. »«
Que veux-tu »
dit-il avec philosophie.
« Le plus souvent, on s'épouse si vite qu'on n'a le temps de se connaître qu'après. »«
Justement, tandis qu'au contraire, si on se connaissait avant... »«
Qui sait, on ne s'épouserait peut-être plus du tout. » »«
Eh bien, moi, » affirma Riquette, « j'ai trouvé un moyen de faire d'excellents mariages. Et si on voulait m'écouter... »«
On vous écoute ?»
dit Riquet. « Qui ça ?»«
Mais le monde entier, moi. »
« Tu es le monde entier, toi ?»«
Parfaitement. »
« Non. »
« Si. »
« Oh, chérie, que je suis donc contente de ce que tu m'apprends là !»«
Parce que... »
« Parce que, mon toutou aimé, je ne te l'ai jamais dit, mais il y a je ne sais combien de temps que, justement, j'avais une envie folle d'embrasser le monde entier. » Et Riquet embrassa le monde entier avec la joie que dut éprouver Christophe Colomb en découvrant le nouveau monde. « À présent, dit-elle, écoute mon moyen. C'est très simple, mais écoute bien, parce que c'est un peu compliqué. Voici, d'où viennent les mauvais mariages ? De ce que les deux époux sont rarement bien assortis, n'est-ce pas ? Et comment faire de bons mariages, en assortissant bien les époux ?»«
Jusqu'ici, en effet, c'est
Riqué.
Très simple. Mais je pressens que nous allons entrer dans le compliqué. »
« Nous y entrons, » dit Riquette. « Qu'entend-on par assortir deux personnes ? On s'imagine, tout naturellement, que cela consiste à réunir deux êtres ayant le même caractère, les mêmes idées, les mêmes goûts. »«
Dame, oui, »
dit Riquet. « Mais non ! Et voilà d'où vient l'erreur. Ces deux êtres-là ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ils ne s'entendront jamais et se disputeront toujours. »
« Il me semble, cependant... »«
Voyons, mon Riquet, réfléchis donc un instant. Le même caractère ? Alors, s'ils sont vifs tous les deux, emportés, colère, qui est-ce qui cédera dans les discussions ?»«
C'est juste. » »«
Les mêmes idées ? C'est épouvantable, car tu leur interdis à jamais un des charmes de l'amour, la douceur des concessions.
Très juste.
Les mêmes goûts, c'est encore pire. Suppose qu'ils préfèrent tous les deux l'écaille, par exemple. Le jour où il y aura, pour déjeuner, une caille et une grive, qui est-ce qui mangera la caille? Personne, car chacun voudra obliger l'autre à manger la grive.
Extrêmement juste.
De là, conclut Riquette, des contrariétés continuelles, des discussions, des disputes, les injures, les coups, le divorce.
Tu as absolument raison,
dit Riquet.
Et si en effet, au lieu d'assortir les gens d'après les similitudes, on les alliait d'après les contrastes?
On aurait des ménages parfaits, dit Riquette. Tiens, vois-nous deux. Quand nous avons à notre déjeuner, nous, une grive et une caille, pourquoi ne nous disputons-nous jamais sur le partage? Parce que nous n'avons pas le même goût. Et pourquoi est-ce Riquet qui mange la caille et Riquette la grive? Parce que Riquet préfère la caille.
Moi?
Dit Riquet.
Pas du tout, car je préfère la grive, mais je ne la prends pas, sachant que tu l'aimes mieux que la caille.
Non! C'est pour cette raison-là! S'écria Riquette en riant aux éclats. « Ah, mon chéri, que c'est drôle! Que c'est donc drôle! »
« Drôle, pourquoi ?»«
Parce que j'aime mieux la caille, au contraire, et je te la laissais, croyant que tu la préférais à la grive. » Cette découverte inattendue les mit dans une joie folle. Et ce qu'il y avait de plus amusant, c'est qu'elle portait un coup terrible à la théorie de Riquette. Elle prouvait, en effet, que s'ils s'entendaient si bien sur le chapitre de la caille, c'est qu'ils avaient toutes les raisons de se disputer, puisqu'il a préféré tous les deux. Mais Riquette ne se démentait pas pour si peu. « Vous avez beau ricaner, monsieur, » dit-elle, « ça ne démolit pas du tout mes idées, ça les confirme au contraire. »«
Tire-le-tutu !»
fit irrévérencieusement Riquet. « Mais parfaitement !» Attendu que nous sommes une exception, nous, et que l'exception confirme toujours la règle. Ah ! Qu'avez-vous à répondre à cela ?
On ne répond pas à des calembres d'aine,
dit Riquet persifleur. De calembres d'aine ! Répéta Riquette avec une jolie petite fureur toute rose.
Mais oui, ce sont des phrases toutes faites, ça. L'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Tu as déjà vu cela, toi, une exception qui confirme une règle. Moi, je ne l'ai jamais vue. »«
Vraiment ? » dit-elle. « Alors, je vais te le montrer et tout de suite. Toi, tu es la règle, moi, je suis l'exception. Eh bien, tiens !» Et elle donna un bon petit soufflet à Riquet en s'écriant. « Voilà, l'exception vient de confirmer la règle. » L'argument était si imprévu et d'un à-propos si fantaisiste que Riquet fut pris d'un accès de gaieté et se mit à embrasser Riquette en disant
« Dieu, que c'est drôle, ce que tu viens de trouver là !»«
Alors ?» dit Riquette, demeurant sérieuse. « Alors, je te donne un soufflet et tu m'embrasses ? Voilà tout ce que tu trouves à faire ?»«
Que veux-tu que je fasse de mieux ?»«
Eh bien, mais te défendre, me rendre ma gifle !»«
Hein ? Moi, te battre ? Tu es folle !»
« Et pourquoi ne penses-tu pas à me battre ?» dit malicieusement Riquette. « Parce que plus je suis très violente, plus tu es très doux. Ce qui donne raison, contre vous, à mes théories, en prouvant, monsieur, que nous sommes tous les deux admirablement assortis. »«
Brigadier, vous avez raison, »
conclut Riquet.
« Et maintenant, je t'en supplie, soyons sérieux. Voilà une heure que tu me promets ton système d'amélioration matrimoniale. » « Songe que si tout d'un coup la fin du monde arrivait, je mourrais sans l'avoir connue. »«
La fin du monde ?» dit tranquillement Riquette. « Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. »«
Parce que ?»«
Parce que ça se saurait, mon chéri. » Puis, sans transition, elle continua. « Mon système matrimonial, monsieur, le voici. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que parmi les femmes, il y en a de jolies, de laides, d'intelligentes, de bêtes.
Il y en a même,
dit Riquet,
qui sont à la fois bêtes et laides, jolies et intelligentes.
Comme il y en a aussi, dit Riquette, qui sont jolies et bêtes, intelligentes et laides.
Parfaitement.
Eh bien, marie une femme intelligente avec un homme intelligent, il semblera que ça doive s'arranger très bien. Mais si cet homme exige chez sa femme, en plus de l'intelligence, la beauté, ça ne s'arrangera plus du tout.
Quel moyen alors ?
Dit Riquet.
Pour que ça s'arrange tout de même.
C'est bien simple. Je marie les laides intelligentes avec les aveugles qui entendent sans voir. Et les sourds qui voient sans entendre épouseront les femmes jolies mais bêtes. Et voilà. Qu'en dis-tu ?
Je dis que ton système est admirable, mais incomplet.
Incomplet ?
Dame, tu utilises bien les aveugles et les sourds, mais les muets. Qu'en fais-tu ? Et avec qui les maries-tu, les muets ?
Riquette réfléchit un instant, puis... Les muets ? Eh bien, ils ne se marieront pas, les muets.
Qu'est-ce qu'ils feront ?
Ils tromperont les gens mariés.
Oh !
Parfaitement. Et comme ils seront muets, ils ne pourront pas aller raconter partout leur bonne fortune et la réputation des femmes en bénéficiera. Riquet ne trouva rien à répondre et, pour se faire pardonner d'avoir osé discuter les idées si sages de Riquette, il se mit à genoux devant elle et lui dit
« C'est vous qui avez raison, toujours raison, et je suis joliment heureux de vos idées sur l'assortiment des êtres en ce bas monde, car sans cela, moi qui ne suis pas beau et qui suis bête, je n'aurais jamais pu espérer être aimé de vous qui êtes si intelligente et si jolie. »
Voilà, dit Riquette, un raisonnement qui ne tient pas debout, attendu que tu n'es pas bête puisque tu m'aimes, et que tu es le plus beau puisque je t'adore. Il se rapprocha d'elle et ses lèvres se tendirent vers un baiser. Non, dit-elle doucement, tout à l'heure. Réponds-moi d'abord, si je n'étais que jolie et que je fusse bête, ou que je fusse intelligente mais laide, tu m'aimerais moins, n'est-ce pas ?
Ni plus ni moins,
répondit Riquet.
Autant.
Oh ! Fit-elle avec un petit doute qu'on devinait rassuré d'avance.
Oui, autant, ma Riquette, car intelligente et laide, tu n'aurais qu'à parler pour devenir jolie, et si tu étais bête tout en étant jolie, eh bien, je ne t'écouterais pas, je te regarderais parler.
Or, Riquette était si intelligente et si jolie que, loin de n'avoir qu'une raison sur deux de l'aimer, Riquet avait au contraire deux raisons pour une de l'adorer, puisque à la douceur d'écouter Riquette s'ajoutait pour Riquet le charme de la contempler. Chapitre 31. Où il est traité gaiement d'un sujet généralement triste. L'amour, qui ne devrait mesurer le temps qu'aux joies éprouvées, n'échappe pas cependant aux heures de mélancolie. C'est dans un de ces moments-là, probablement, que Riquet dit tout à coup à Riquette.
« As-tu songé quelquefois, ma chérie, que nous pouvions mourir ?»«
Nous ?» répondit Riquette. « Nous ne mourrons jamais, nous. »«
Crois-tu ?»«
Si je le crois, mais j'en suis sûre. Voyons, mon chéri, réfléchis donc un instant. » Puisque nous devons nous aimer éternellement, car nous devons nous aimer éternellement, n'est-ce pas ? C'est promis, c'est juré. Alors nous sommes tranquilles. Éternellement, c'est l'immortalité.
Tiens, mais oui,
dit Riquet. Riquette prit un petit air protecteur. Tu n'avais jamais pensé à ça, toi ?
Jamais.
Si je n'étais pas là, pourtant, tu ne penserais à rien.
Tu n'as pas idée,
dit Riquet.
Comme je suis content de savoir que nous ne mourrons pas.
Et avec un soupir de soulagement.
Enfin, nous allons donc avoir le temps de nous aimer.
Ah, pardon, pardon, interrompit vivement Riquette. Il ne faudrait pas te fier à notre immortalité pour ne pas te dépêcher de m'aimer ? Oh, mais non ! Tu comprends ? Je peux me tromper, moi. Et il est possible que nous mourions tout de même, après tout. Puis, comprenant aussitôt que l'amour n'avait rien à gagner à s'attarder à un pareil sujet, elle pirouetta sur ses talons et s'écria avec un geste délicieusement gamin. « Ah ! Et puis flûte pour la mort ! Elle nous ennuie !» Et elle ajouta triomphalement. « D'ailleurs, elle n'a aucune influence sur la vie, la mort, puisque quand on est mort, on n'en sait rien. » Et voilà comment, d'un sujet qui pouvait entraîner vers la tristesse, Riquette tira une conclusion qui ramenait au sourire. Et cela tout naturellement, sans effort, par un de ces raisonnements familiers, inattendus et personnels, qui, chériquettes, puisaient leur force et trouvaient leur charme dans la jolie insouciance de la femme heureuse du présent, confiante en l'avenir, aimante et aimée. Chapitre 32. Conversation politique et sociale. Si ce n'était l'absolue vérité, je n'oserais jamais vous répéter l'aveu que fit Riquet à Riquet, un soir qu'ils étaient assis l'un près de l'autre, devant la cheminée où flambait gaiement un joli feu de bois. Riquet s'écria donc tout à coup. « Je voudrais être impératrice !»
Ha ha !
Dit simplement Riquet.
« Ça n'est peut-être pas très facile. »
« Mais si, répondit Riquet, tu n'as qu'à être empereur. » Et comme il se taisait, semblant réfléchir, « À quoi penses-tu ? » lui demanda-t-elle.
« Je cherche où il pourrait bien y avoir en ce moment un empire de libre. »
« Si tu en trouves un, ne le laisse pas échapper, hein ?»«
Sans compter, »
dit amoureusement Riquet,
« que tu serais une bien jolie impératrice, tu sais. »
Et tous deux, se complaisant aussitôt à ce rêve, laissèrent leur imagination vagabonder vers les chimères.
« Non, mais vois-tu que ça arrive un jour ?»
dit gaiement Riquet. « Tout est possible, » dit Riquette. « Tu m'offrirais une belle robe, dit, pour le sacre. Toi, tu aurais un habit doré avec une culotte courte. C'est-à-dire, non, je ne veux pas qu'on voie tes mollets. »«
Ah, c'est que... »
fit Riquet.
« Le pouvoir impose certaines obligations. »
Oui, mais pas ça, je ne veux pas. Tes mollets sont à moi toute seule. » Et elle les lui pinça pour bien affirmer son droit de propriété.
« Tu me chatouilles, »
dit-il.
« J'espère qu'une fois impératrice, tu ne te permettrais plus de pareille familiarité avec l'empereur. »
« Je me gênerais. D'abord, tu ne serais empereur que pour les autres. Pour moi, tu resterais toujours un simple petit Riquet de rien du tout. »
« Est-ce que tu crois ?»
demanda-t-il.
« Que dans les cérémonies officielles, nous serions capables de garder notre sérieux. »
« Non, je ne crois pas. Mais ce serait tant mieux, car en nous voyant rire, le peuple se dirait « Tiens, ils sont gais, ceux-là. S'ils sont gais, c'est qu'ils sont heureux. Alors ça va bien, ils seront mieux disposés à faire le bonheur des autres. Et ils nous adoreraient, le peuple. »
«
fit Riquet en hochant la tête.
« Ne nous y fions pas. Gouverner une nation n'est peut-être pas aussi facile que tu le penses. »
« Mais si, le tout est de savoir s'y prendre. »
« Eh bien, voyons, »
dit-il.
« Comment t'y prendrais-tu, toi ?»«
Moi, je commencerai par changer tout ce qui existe. »
« Déjà ?»«
Naturellement. Si ce qui existe ne donne pas de bons résultats, c'est qu'il y a autre chose à trouver. »
« Un instant, »
dit Riquet en l'interrompant.
« Tout ceci étant de la plus haute importance politique et sociale, il me semble convenable de ne traiter ces questions que dans la grande salle du Conseil. Si Sa Majesté veut faire l'honneur de venir prendre place sur le trône... »«
Le trône ?» demanda Riquet. « Où est-il, le trône ?»«
Sur mes genoux, »
répondit Riquet en l'attirant à lui.
« Maintenant, l'impératrice a la parole. L'empereur l'écoute avec amour. »«
Eh bien, mon chéri, » dit Riquet en s'installant sans façon sur les genoux de l'empereur, « tu viens de prononcer un mot qui est toute la base de mon système politique. »«
L'amour, je m'en doutais. »«
L'amour, oui. » Et regarde comme il arrangerait tout. En somme, d'où vient que, dans une nation, les gens ne s'entendent pas entre eux ?
C'est qu'ils n'ont jamais les mêmes idées,
dit Riquet. Non, c'est qu'ils discutent toujours sur les mots. L'un soutient le mot « empire », l'autre le mot « royauté », un troisième le mot « république ». Mais au fond, que désire-t-il chacun ? La même chose, le bonheur du peuple. C'est bien cela ?
Absolument cela.
Eh bien, puisque ce sont les mots qui divisent les gens, dit Riquet, je supprime les mots et tout le monde se trouve immédiatement d'accord sur les idées. C'est logique.
En ce cas,
dit Riquet,
explique-moi un peu pourquoi tu souhaitais tout à l'heure d'être impératrice au lieu d'être reine, par exemple, ou présidente. Les mots ont donc cependant une importance, puisque tu as choisi l'un de préférence aux autres.
« Ah, ça, mon chéri, je vais te dire, c'est à cause des cartes de visite. »«
Quoi ?»«
Oui, Riquet reine ou Riquette présidente, je trouve que ça manque un peu de... Tandis que Riquette impératrice sur une carte de visite, ça a tout de suite une autre allure.
Ah bon, ce n'est pas une question de principe.
Oh, pas du tout, c'est une question de chic.
Bien, bien, continue. Tu as supprimé trois mots, par quoi les remplaces-tu?
Par un autre, amour. Notre gouvernement deviendra le gouvernement de l'amour. Et toi, tu en seras le chef sous le nom de Riquet Ier.
Le gouvernement de l'amour.
Répéta Riquet.
C'est une trouvaille, cela.
Et tu ne peux pas te douter, dit Riquette, du prestige et de la gloire que ma trouvaille jettera sur le règne de Riquet Ier. Seulement, ajouta-t-elle, vous devez vous rendre compte, sire, du chambardement général que vont occasionner mes idées.
Pardon,
interrompit Riquet.
Votre Majesté chambarde-t-elle pour le bonheur du peuple?
Oui.
Alors, ta Majesté peut chambarder, vas-y.
D'abord, expliqua Riquette, toutes les vieilles devises des autres régimes sont mises au grenier. L'Empire, c'est la paix, Dieu est le roi, liberté, égalité, fraternité, tout ça est remplacé sur les pièces officielles et sur les monuments publics par notre devise « Amour, amour », qu'on inscrit partout à profusion en lettres énormes.
Avec un point d'exclamation,
dit Riquet. Oui. Ensuite, tu fais une loi qui oblige tous les citoyens, hommes, femmes et enfants, à porter le costume national.
Et comment sera-t-il le costume national?
Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il se composera sûrement d'étoffes saillantes, jolies, aux couleurs claires, gaies, car avant tout, vois-tu, il faut décréter chez nous la gaieté.
Pas très commode à faire observer, ce décret-là,
remarqua Riquet. Mais si, et il y a une foule de moyens pour y parvenir. Ainsi, toutes les œuvres d'art, gravures, tableaux, statues, qui actuellement, dans les musées, les jardins publics, les ministères et les mairies, exhibent des sujets lamentables, des scènes lugubres, des groupes difformes, des horreurs enfin, qui rendent les gens tristes en les écœurant, tout ça balayé, interdit, et remplacé par des images riantes, gracieuses, célébrant exclusivement l'amour, l'amour dans toutes ses expressions, aussi bien l'amour maternel que l'amour conjugal, l'amour héroïque, pourvu que ce soit l'amour. Des tableaux représentant des scènes d'amour. Des statues belles comme l'amour et inspirant l'amour en développant le sentiment de la beauté. Dans les ministères, dans les préfectures, plus de bustes officiels et réfrigérants du chef de l'État. Ça te sera bien égal, n'est-ce pas, qu'on ne mette pas ton buste dans les ministères et les préfectures?
Tout à fait égal.
Bon, alors, on y placera une jolie statue de l'amour. Dans les mairies aussi, une statue de l'amour, surtout dans la salle des mariages.
Dans notre palais aussi, je suppose,
demanda Riquet. Ah, je crois bien, s'écria Riquette. Nous devons donner l'exemple, nous. Aussi, dans chaque pièce du palais, un portrait de l'amour, un grand, et deux dans la chambre à coucher.
À propos de chambre à coucher,
dit Riquet,
sais-tu que l'étiquette exige que l'empereur et l'impératrice aient chacun la leur?
Eh bien, nous changerons l'étiquette, riposta Riquette. Deux chambres? Tu plaisantes! Non, non, une seule et avec un seul lit. Et pas un de ces lits immenses de 3 mètres de large dans lesquels on se cherche un quart d'heure avant de se rencontrer. Mais un lit tout petit, étroit, un lit d'amoureuse enfin. Ou, quand il y a de la place pour un, il y en a pour deux.
Tu avais raison,
dit Riquet.
C'est un chambardement général.
Et ce n'est que le commencement, dit Riquette. Après la réforme des arts, celle de la littérature, car elle aussi a une influence sur les esprits. À partir du jour où tu montes sur le trône, la littérature pessimiste, décourageante, malsaine aura vécu. Nous l'exigeons, nous, optimistes, saines, réconfortantes, et l'autorisons sous la condition expresse qu'elle ne décrive aussi que l'amour, mais l'amour sincère, désintéressé, élevé.
Tu ne songes pas,
interrompit Riquet,
qu'on va nous accuser de porter atteinte à la liberté de penser ?
À la liberté de mauvaise pensée, parfaitement. Ça obligera les gens à en avoir de bonnes, de tendres, de généreuses.
Mais le moyen d'en arriver là, ma chérie.
Le moyen ? Une bonne petite loi de Riquet Ier, ainsi conçue. La littérature sera amoureuse ou elle ne sera pas. Et ça suffira. De même, au théâtre, on n'y pourra représenter que des pièces dont l'amour fera le sujet et celles qui ne concluront pas absolument au triomphe de l'amour seront rigoureusement interdites par la censure. « Eh bien, demanda Riquet en changeant de ton, qu'est-ce que votre majesté pense de mes réformes ?» Et, en posant cette question, l'impératrice saisit à pleine main le nez de l'empereur qu'elle se mit à secouer avec une irrévérence qui aurait causé un beau scandale si la grande salle du conseil n'eût été vide à ce moment-là des hauts dignitaires de l'État.
« Je pense, »
répondit l'empereur, quand il put parler avec un peu plus de dignité et autrement que du nez.
« Je pense que tes réformes nous conduiront tout droit et rapidement à un résultat. »«
Lequel ?»«
La révolution. »«
Soit, » dit Riquet, « seulement, c'est nous qui la ferons. »«
Si le peuple nous la laisse faire. »«
Puisque nous révolutionnons pour son bonheur, il sera avec nous, le peuple. Il nous aidera. »
« il nous aidera... »
répéta Riquet.
« Il en aura l'air jusqu'aux premières élections où il votera contre nous. »«
Les élections ? » fit-elle en haussant les épaules. « Elles seront ce que nous voudrons qu'elles soient. »«
Oui, on croit toujours ça avant. »
dit Riquet.
« Et après, on recueille des déceptions. »«
Parce que, mon chéri, on ne fait rien de ce qu'il faut pour les éviter. Tiens !» « Veux-tu que je te dise comment elles se passeraient sous notre gouvernement, les élections ?»«
Tu as aussi des idées là-dessus ?»«
J'en ai surtout, puisque je t'aime. Eh bien, les élections ? Mais il me semble que voilà bien longtemps que vous ne m'avez embrassé, monsieur. Je vous trouve froid, vous savez, depuis que vous êtes au pouvoir. »«
Oh ! » !»«
Ne perdez pas de vue que, maintenant, vous devez être deux fois plus gentil avec moi. » puisque c'est vous qui donnez l'exemple au peuple.
« C'est vrai, »
s'écria Riquet.
« Eh bien, écoute ma proclamation au peuple. Peuple, je ne te dirai qu'un mot. Ne me juge jamais sur mes paroles, mais toujours sur mes actes. »
Et l'empereur embrassa l'impératrice avec une tendresse passionnée qui était à elle seule tout un programme. « Maintenant, occupons-nous des élections, » dit Riquet. « D'abord, elles auront toujours lieu au mois de mai. »«
Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ?»
demanda-t-il, étonné. « Tout simplement, mon chéri, parce que ce sera le printemps. Et qu'au printemps, le ciel étant plus bleu, le soleil plus chaud, les fleurs plus parfumées, les cerveaux moins soucieux et les cœurs plus tendres, tout le monde se sentira plus heureux et déjà moins disposé à embêter le gouvernement. » À cette conclusion, Riquet ne put s'empêcher de rire, mais Riquet continua. Voilà donc nos électeurs influencés par la date des élections. Il s'agit maintenant de les décider à voter selon nos idées et nos désirs. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Riquet Ier, malin ?
Je n'en sais rien du tout.
Avoua franchement Riquet.
Mais je ne suis pas inquiet, car je me doute que je vais faire quelque chose de très bien.
Oui, dit Riquet. Tu fais une loi.
Encore ?
Oh, rassure-toi, je ne t'en demanderai pas beaucoup, mais je les choisirai bonnes. Une loi par laquelle le jour désigné pour les élections sera décrété fête nationale, sous le nom beaucoup plus joli de fête de l'amour. Et la fête, c'est nous qui l'organisons. D'abord, des drapeaux à toutes les maisons.
Au fait,
interrompit Riquet.
« Comment sera-t-il, notre drapeau ?»«
Ah oui » dit-elle, réfléchissant un instant. « Eh bien, il sera tricolore. Vert, rose, bleu. Vert, l'espérance. Rose, l'amour. Et bleu, la fidélité. tout en nuances tendres.
Bien.
Dit Riquet.
Maintenant que nous avons un drapeau, nous en décorerons toutes les maisons.
Oui, et avec des fleurs, beaucoup de fleurs, des fleurs à profusion. Et même, tiens, ce jour-là, nous passerons une revue de l'armée, mais les soldats n'auront pas de fusil, ils porteront chacun un bouquet. Ne sera-ce pas plus gentil, plus gai, plus confiant ?
Et puis, ce sera nouveau,
observa Riquet. Ce qui ne sera pas moins nouveau, poursuivit Riquette, c'est la cavalcade que je rêve.
Ah, il y aura aussi...
Oui, une cavalcade allégorique, mais pas triste surtout, gai au contraire, avec des personnages sympathiques, et jeunes, et beaux. Des cavaliers élégants, en costume de velours, mais propres, caracolant à côté de jolies amazones en robe de soie, mais pas fripées. Des chars enrubannés et enfeuillagés, promenant des bergers bleus de ciel et des bergères roses fleurs de pommier qui chanteront des duos d'amour, accompagnés par une toute petite flûte qui ne fera pas trop de bruit afin de ne pas les troubler. Et enfin, comme clou, car il y aura un clou, un grand défilé par groupe de tous les amoureux célèbres, connus et même inconnus depuis que l'amour existe, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, depuis Adam et Ève jusqu'à Riquette et Riquet. Qu'est-ce que tu en dis ?
Je dis qu'au milieu de tout cela, je perds un peu de vue les élections et le bon peuple qui va voter.
Le peuple ? Dit Riquette. Mais il vote pendant ce temps-là, le peuple, puisque c'est le jour des élections. Et pour voter, il n'a pas besoin d'aller dans les mairies où c'est triste, car nous installerons, nous, les urnes électorales partout où il y aura une distraction et où ce sera gai. Sur les boulevards où passera la cavalcade, dans les théâtres où l'on donnera des spectacles gratuits, dans les jardins où l'on fera de la musique, dans les carrefours où l'on dansera en plein air. Et devines-tu, mon Riquet, l'état d'esprit de l'homme qui votera dans de pareilles conditions ? Admets-tu un seul instant que cet homme-là puisse être hostile à un gouvernement qui se donne tant de mal pour le plaisir de ses sujets, pour leur bonheur ? C'est inadmissible, d'autant plus que cet homme ne sera certainement pas venu seul à la fête. Il aura emmené sa femme ou sa maîtresse, une femme enfin, et en supposant même qu'il soit un esprit mauvais, une âme aigrie, ce jour-là il deviendra meilleur malgré lui, car il est impossible qu'on reste méchant un jour de printemps, lorsqu'il y a du soleil dans le ciel bleu, des fleurs dans les jardins, de la musique dans les airs, de la gaieté dans les cerveaux, et de l'amour tout plein les cœurs. À la suite de cette brillante péroraison, Riquette s'attendait à une manifestation de Riquet. Elle venait en effet, pour assurer la stabilité du gouvernement, de trouver un moyen si merveilleux que, comme impératrice, elle était en droit d'espérer, sinon une approbation, du moins une appréciation quelconque de l'empereur. Et l'empereur ne disait rien. Étonnée, l'impératrice le regarda et demeura stupéfaite. L'empereur pleurait. « Qu'est-ce que tu as, grosse bête ? » s'écria Riquette.
« Eh bien, je pleure. Je ne t'empêche pas de dire des choses qui m'émotionnent, qui me remuent, n'est-ce pas ? Alors, tu ne peux pas m'empêcher de pleurer en les entendant.
« Oh, mon pauvre toutou !» murmura Riquette en essuyant les larmes de Riquet.
« Assure-toi, »
dit celui-ci.
« Je ne pleure pas triste, oh non, je pleure bon. »
Et pendant quelques instants, dans la grande salle du conseil où venaient de s'agiter d'aussi graves questions sociales et politiques, il y eut, comme on dit, une suspension de séance. La séance reprit bientôt sur cette réflexion de Riquette. « Ne t'avise pas de pleurer comme ça le jour des élections, au moins. Le peuple s'imaginerait qu'il pleut et ça gâterait tout mon programme. »«
Sais-tu, »
dit Riquet,
« quelle en serait une des premières conséquences de ton programme, c'est que Montés à ce diapason, le peuple aurait des enfants à n'en plus finir.
« Tant mieux ! » s'écria-t-elle. « On se plaint toujours de la dépopulation. De cette façon, elle serait arrêtée. »
« Elle amènerait peut-être un excès contraire. »
observa Riquet.
« Une augmentation trop considérable de naissances dans un pays peut offrir de graves inconvénients. »«
Lesquels ?»«
Quand ce ne serait que la difficulté de nourrir tous ces enfants-là. Qu'est-ce qui s'en chargera ?»«
Leur famille d'abord, » dit Riquet. « Ensuite, l'État. Et si cela ne suffit pas, eh bien, nous mettrons un impôt spécial sur ceux qui n'auront pas d'enfants ou n'en voudront pas avoir. Les célibataires, les égoïstes et les avares. Et si cela n'est pas encore suffisant, nous trouverons d'autres ressources. Tiens, les gens qui auront encouru une condamnation, au lieu de les envoyer en prison, de les loger et de les nourrir à ne rien faire, ce qui est une dépense sans profit, tous ces gens-là seront condamnés à verser, pendant 8 jours, 6 mois, 20 ans ou à perpétuité, selon la condamnation encourue, une somme destinée à l'alimentation de l'enfance.
« C'est très joli, »
dit Riquet.
« Mais s'ils n'ont pas de quoi payer. »
« Alors, on les fera travailler. Ils cultiveront des champs immenses de blé et de pommes de terre, avec quoi on pourra toujours faire du pain pour les enfants et même des gâteaux le dimanche pour ceux qui auront été sages dans la semaine.
« Enfin, »
dit Riquet,
« nous décrétons la charité obligatoire. »
« Parfaitement, » dit Riquet, « et pas gratuite. » « Mais, » ajouta-t-elle, « ne te préoccupe de rien, mon Riquet. Puisque notre gouvernement sera celui de l'amour, tu entends, de l'amour, la charité s'améliorera, elle aussi, comme tous les autres sentiments, et elle se fera alors toute seule, non plus par une préméditation de l'intérêt, mais par un besoin naturel du cœur. »
« Ce qu'il y a de particulier et d'adorable dans tes raisonnements, ma chère chérie, c'est que tu dis des choses sérieuses absolument folles. »«
Exprès, » dit Riquet, « il faut toujours que les choses sérieuses aient l'air d'être folles. Ça engage à les écouter, ce qui permet de les faire entendre. »«
Tu as raison, »
dit Riquet songeur.
« Et en y réfléchissant, tes idées politiques et sociales ne sont pas plus folles que bien d'autres qui passent pour plus sérieuses. » En tout cas, les tiennes sont meilleures et plus généreuses. Au lieu de conseiller la haine, elles prêchent la bonté, puisqu'elles partent de l'amour pour aboutir à l'amour. Et je me demande si, à cause même de cela, elles ne seraient pas plus pratiques que les autres.
« 10 fois, 100 fois plus pratiques !» s'écria Riquet. « Aussi, sois tranquille, une fois impératrice, moi !» Mais elle s'arrêta et, revenant s'asseoir sur les genoux de Riquet, non plus en impératrice, mais en Riquet, elle se blottit contre lui, en lui, bien à lui, et elle dit avec un joli sourire. Seulement, voilà, comme Riquet ne sera jamais empereur, Riquet ne sera jamais impératrice. Et Riquet, pensant à tout ce qu'il y avait de bon, de généreux, de délicat, d'élevé dans le cœur de Riquet, Riquet ne put s'empêcher de murmurer.
C'est dommage.
Chapitre 33. Différence de l'embrassade et du baiser. Un rayon de soleil qui pénétra subitement dans la chambre vint caresser la joue de Riquet. Alors Riquet se leva et alla fermer les rideaux. « Pourquoi fermes-tu les rideaux ? » demanda-t-elle.
« Parce que je n'admets pas que le soleil se permette de vous caresser la joue. »«
Tu es jaloux du soleil ?»«
Je suis jaloux de tout, et je ne veux pas que le soleil t'embrasse. »«
Ça n'a aucune importance, » dit Riquet. « Le soleil, c'est un ami. » »«
En voilà une raison. Alors, sous prétexte que quelqu'un est ton ami, il aura le droit de t'embrasser quand il lui plaît. »« Ah, non, non. Entre amis, on se serre la main. On ne s'embrasse que lorsqu'on s'aime. »«
Mais, mon bon chéri, » dit Riquet, « tu confonds totalement une embrassade avec un baiser. »«
C'est la même chose, »
fit Riquet. « Ah non, ce n'est pas la même chose, » répondit-elle tendrement. « Dans l'embrassade, il n'y a jamais qu'une personne en jeu, celle qui embrasse. L'autre est absente. Pour un baiser, au contraire, il faut toujours être deux, Deux qui le donnent en même temps et qui le rendent ensemble. Autrement, ce n'est plus un baiser. Riquet ne paraissait pas convaincu.
Tout ça est très joli,
dit-il.
Mais enfin, tu ne peux pas m'empêcher de ressentir un tout petit quelque chose au cœur, à la pensée que quelqu'un t'embrasse, même un ami, à un indifférent. Tu as beau être à ce moment-là, toi, absente, comme tu dis si gentiment, j'ai beau savoir, moi, que tu ne donnes rien de toi-même. Il n'en est pas moins vrai qu'en t'embrassant, c'est un peu de toi qu'on me prend, qu'on me vole.
Mais pas du tout, mon Riquet. Lorsqu'un indifférent m'embrasse, il n'a que ma joue qui ne s'aperçoit même pas de l'embrassade. Tandis qu'à toi, mon adoré, je réserve mon cœur tout plein de notre amour et mes lèvres toujours prêtes pour nos baisers. Comprends-tu la différence maintenant ? Et Riquet finit par la comprendre. Fût-ce parce qu'il était intelligent ? Est-ce parce que Riquet fut particulièrement convaincante ? En tout cas, Riquet avoua.
Décidément, tu as toujours raison, et je ne discuterai plus jamais avec toi, car je ne dis que des bêtises, et j'ai tort.
Le moyen d'éviter cela, dit Riquet, c'est de toujours avouer que tu as tort, et tu seras sûr ainsi d'avoir toujours raison. Chapitre 34 Amour. Après tant de choses qu'il a ignorées au cours de cette histoire, le lecteur ne tient certainement pas outre mesure à connaître par quelle suite de circonstances la scène qui se passe dans ce chapitre se passa dans l'endroit où elle se passe. En se contentant de savoir que l'endroit où elle se passe est le jardin de restaurant, à la campagne, le lecteur m'évite l'ennui de lui fournir d'autres explications et il en est immédiatement récompensé en s'épargnant ainsi à lui-même le désagrément de les subir. Qu'importe, du reste, la façon dont Riquet et Riquet sont arrivés et installés dans ce jardin de restaurant. Quel intérêt y aurait-il à savoir s'ils y étaient arrivés par le chemin de fer ou en voiture ? Si ce restaurant était un établissement chic ou une guinguette ? Si c'était un dimanche ou un mercredi ? S'il y avait ce jour-là du soleil ou si le temps était à la pluie ? Si Riquet portait un chapeau à bord plat ou à bord relevé, et si Riquet avait sa robe bleue ou sa robe rose. Tous ces détails ont si peu d'importance que Riquet et Riquet eux-mêmes seraient incapables de se les rappeler, et pour cause, attendu que, lorsqu'ils partent, ils ignorent toujours où ils vont. Quand ils s'arrêtent, ils ne savent jamais où ils sont. S'ils entrent dans un restaurant, il ne se préoccupe ni de son enseigne, ni de sa réputation. Les jours de la semaine n'existent pas pour eux, puisque le seul jour qui existe est celui où ils se trouvent ensemble. Le soleil n'ajoute pas plus à la gaieté qu'ils ont toujours dans l'esprit que la pluie n'obscurcit le soleil qu'ils ont toujours dans le cœur. Quant au chapeau de Riquet, quant à la robe de Riquet, quelle que fût la forme de l'un et la nuance de l'autre, sous ce chapeau et dans cette robe, il y avait deux êtres qui s'aimaient et à qui cela suffisait pour ne pas se préoccuper du reste. Pour l'instant, la seule chose qui les intéressa était de se rafraîchir car ils avaient très soif. Ils avaient demandé qu'on leur apportât de l'eau de seltz, un citron, du sucre et un peu de vin blanc. Ce mélange leur plaisait particulièrement. D'abord parce que c'était très agréable au goût, ensuite parce que c'était amusant comme tout à préparer. C'est Riquet qui se chargeait, d'habitude, de la préparation. Il commençait par mettre le sucre dans le verre, versait un peu d'eau pour le faire fondre, puis remplissait à moitié de vin blanc, exprimait dedans le jus du citron, remuait bien le tout et se disposait à compléter avec l'eau de seltz. À ce moment précis, Riquet s'écriait. Eh, tu sais, fais de la mousse. Moi, je veux beaucoup de mousse.
Alors ne perds pas de temps pour boire. Prépare-toi. Tu y es ?
J'y ai. Et l'eau de seltz, précipitée avec force dans le verre, formait aussitôt une mousse légère, gaie, chantante, qui retombait en pluie fine sur le petit nez de Riquet à mesure qu'elle buvait. Voilà généralement comment les choses se passaient. Mais ce jour-là, Riquette déclara que c'est elle qui se chargeait de la préparation du rafraîchissement. Riquet, toujours empressé à ce qui pouvait faire plaisir à Riquette, ne discutait jamais ses désirs. Il s'y soumettait tout de suite, avec, chaque fois, ce seul regret de n'avoir pas prévu la demande pour l'accorder avant même qu'elle ne fût exprimée. Riquette prépara donc le rafraîchissement et Riquet, lui, regarda Riquette. Il n'était pas seul à la regarder. Dans le jardin, pas très loin d'eux, sur un banc, étaient assis un bon vieux et une bonne vieille. Vieux, cela se voyait. Bon, cela se devinait à la façon attendrie dont ils observaient Riquette. Et cette vieillesse contemplant cette jeunesse n'évoquait rien de triste ni de douloureux, car il n'y avait aucune amertume, aucune envie dans la muette contemplation de cet avenir par ce passé. Les deux vieux ne disaient rien, mais, aux impressions semblables qui se manifestaient en même temps sur leurs visages, on leur sentait une longue habitude de se comprendre sans se parler. Riquette, ne se doutant pas qu'elle était observée et se croyant seule avec Riquet, ne se gênait pas pour lui faire des discours.
« Oh ! » disait-elle, « ne va être bon, ça que Riquette est en train de préparer pour Riquet. N'a très soif, le pauvre toutou. Il trouve que Riquette n'en finit pas. Riquette se dépêche bien, cependant. Le sucre est fondu. Bon. Non, non, ne bouge pas. C'est Riquette qui travaille aujourd'hui. Riquet ne fait rien, lui. Il se repose. Ah, maintenant, le citron. Quelle quantité pour Riquet? Beaucoup? Très peu? Inutile de me répondre, monsieur. Je connais vos goûts aussi bien que vous. Quoi? Non, monsieur, c'est pas vrai. Je ne vous ai pas interrogé. Je me parlais à moi-même et je vous trouve très indiscret d'écouter ce que je me dis. Allons, bon, voilà que je répands le citron à côté du verre. C'est de ta faute. Si tu ne me regardais pas, cela ne serait pas arrivé. Non, ne me regarde plus. Ça me donne des distractions et je fais des bêtises. Regarde ailleurs.
Soit,
dit Riquet.
Je regarde ailleurs. Veux-tu que je ferme les yeux?
Oui, c'est cela. Ferme les yeux.
Ça m'est bien égal. Je te vois tout de même.
Possible, dit Riquette. Mais moi, je ne vois pas que tu me vois et ça ne me gêne plus. Et puis, en voilà assez, n'est-ce pas? Taisez-vous. Voulez-vous vous taire? Ah, ça! Qu'est-ce que c'est que ce galopin qui répond tout le temps? Taisez-vous, je vous répète, sans quoi je vous donne le fouet, moi, tout de suite et devant tout le monde. Ah, mais...
Oh!
Pensa Riquet en regardant autour de lui.
Si nous sommes seuls, je lui fais la farce de l'obliger à me donner le fouet. Ah, non, non, nous ne sommes pas seuls.
Il venait d'apercevoir les deux vieux sur le banc. En les examinant, il vit qu'ils avaient les yeux fixés sur Riquette et sur lui. Alors, il éprouva une gêne soudaine, en même temps qu'une pensée charitable lui traversait le cœur. Et comme, à ce moment, Riquette lui présentait un verre en disant
« Tiens, j'ai bu dedans. Tâche de retrouver la place. »
Il murmura en lui désignant les deux bons vieux.
« Ne soyons pas trop gais devant eux, ma Riquette. Ils paraissent si tristes. »
Et pendant qu'elle considérait, à son tour, le couple immobile et muet, il ajouta.
« Et même, n'ayons pas trop l'air de nous aimer. Ils auraient peut-être des regrets, et ça leur ferait de la peine. »
« Au contraire, répondit Riquette, s'ils se sont aimés, ils se retrouveront en nous, et ça leur fera plaisir. »
« Oui, mais si par hasard, ils ne se sont pas aimés. »
« Alors, fit Riquette, ce sont des sans-cœurs et des méchants, tant pis pour eux. Ils ne sont pas intéressants et ils doivent être punis. »
« Oh, Riquette, je ne te reconnais plus. C'est toi qui parles ainsi. »
« Si je parle ainsi, mon chéri, c'est que je suis sûre, moi, qu'ils se sont aimés, comme nous. Tiens, examine-les. Regarde ces yeux vagues,
troublé par je ne sais quelle vision. Ce sourire, inconscient, heureux. Et les mains, elles se sont rapprochées, les mains. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Et elles se serrent les mains. Elles se serrent toutes seules. Non, non, je ne me trompe pas, va, crois-moi. Et en ce moment, où nous nous figurons qu'ils nous regardent, ce n'est plus nous qu'ils voient, c'est eux-mêmes.
Oui,
dit Riquet.
Tu as peut-être raison. Ils ont dû s'aimer, eux aussi.
J'en suis sûre, affirma Riquette.
Sûre. Tu peux te tromper, cependant.
Non, je ne me trompe pas.
Enfin, ma chérie, tu n'en sais rien.
Rien ? Eh bien, je le saurai, dit Riquette.
Comment cela ?
Je vais le leur demander.
Oh, Riquette !
Pourquoi pas ?
Parce que...
Tu vois ? Dit-elle en riant. Tu ne trouves même pas une mauvaise raison à me donner. J'y vais. Et Riquette se leva, très décidée.
Je t'en prie,
dit-il, cherchant à la raisonner.
Ne fais pas cela, réfléchis donc.
À rien du tout. Ça t'apprendra à me donner un démenti. Et se dégageant, Riquette se dirigea vers les deux vieux. Riquet n'osa pas insister pour la retenir. Il pensa d'ailleurs que ce n'était, de la part de Riquette, qu'une feinte, un jeu pour le taquiner, et qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de la démarche invraisemblable dont elle l'avait menacée. Ce en quoi Riquet se trompait, car Riquette n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter en route. Seulement, à mesure qu'elle approchait des deux vieillards, une transformation s'opérait en elle. Son pas, rapide au début, léger, insouciant, se faisait plus lent, plus sérieux, plus réfléchi. Les allures si vives, si gaies, si gamines de toute sa personne se changeaient peu à peu en des attitudes calmes, nobles, presque graves. Elle ne marchait déjà plus, elle glissait et, par un phénomène presque miraculeux, la toilette même de Riquette perdait sa physionomie accoutumée. De chiffonnée, de mousseuse, de froufroutante, elle devenait comme modeste, moins bavarde, plus sage. Et la transformation s'accomplissait sans effort, sans heurts, toute naturelle. On devinait qu'avant d'arriver jusqu'au vieux qui la regardait venir, Riquette avait voulu s'harmoniser tout entière avec la délicatesse de la démarche qu'elle allait faire auprès d'eux. Et elle y avait réussi à ce point qu'en ce moment, ce n'était plus une Riquette qui s'avançait vers deux vieux, c'était l'amour même, dans ce qu'il avait de plus chaste, qui allait vers le souvenir, dans ce qu'il offrait de plus respectable. Aussi, quand elle s'arrêta près, tout près, elle était bien tranquille, Riquette, tellement elle les sentait tous les deux rassurés sur elle-même et disposée d'avance à la bien accueillir. Et ce fut comme à deux anciens amis, perdus de vue depuis longtemps et retrouvés, que, sans un instant d'embarras, sans aucune confusion, sans la moindre gêne, elle dit simplement ceci. « Moi, je m'appelle Riquette. Lui s'appelle Riquet. » Lui prétend que cela vous cause peut-être de la peine de nous voir nous aimer. Moi, je prétends au contraire que cela doit sûrement vous rendre heureux. Je viens donc vous demander de me dire lequel de nous deux a raison. Est-ce lui ? Est-ce moi ? Ensemble, les deux vieux répondirent. C'est vous. Puis ils se levèrent lentement, péniblement, et la vieille embrassa Riquette sur les deux joues en lui disant « Aimez-vous bien, mes enfants, aimez-vous toujours. » « Oui, toujours, » répéta le vieux comme un écho. À son tour, il s'avança pour mettre, lui aussi, un baiser sur les joues de Riquette, mais la vieille l'arrêta doucement et lui désignant Riquet là-bas. « Prends garde, » dit-elle, « il est peut-être d'un caractère jaloux. » « C'est vrai, dit-il, tu as raison. » Et il se contenta de baiser la main de Riquette. Celle-ci fit une belle révérence et revenue auprès de Riquet. « Eh bien, c'est moi qui avais raison et je viens de faire deux heureux. » Ce soir-là, Riquette et Riquet ne s'aimèrent pas plus, mais ils s'aimèrent autrement, parlant de l'affection qui dure malgré l'âge, et ils se virent plus tard, âgés, très âgés, et s'aimant toujours. « Et alors, dit Riquette, quand nous rencontrerons, nous aussi, des plus jeunes qui s'aimeront, nous ne serons pas tristes non plus, nous serons heureux, et, loin de les décourager, de les effrayer, nous les encouragerons, au contraire, à s'aimer davantage. Et nous prouverons ainsi, mon Riquet, notre reconnaissance à l'amour, en faisant, à notre tour, quelque chose pour lui qui aura tant fait pour nous. » Chapitre dernier. Que vous dire de plus? Rien, sinon qu'ils sont très heureux, continuent à s'aimer et s'aimeront toujours. Fin.